Donc, c'est cette bibliothèque de textes, de livres issus d'une histoire de relecture et d'actualisation. Il faut évidemment s'en emparer. Et du coup, alors depuis toujours, la Bible a été relue, travaillée, et les pères de l'Église, les premiers, s'en sont emparés avec des lectures qui vous intéresseraient, mais qui vous troubleraient aujourd'hui. Ils n'ont aucune idée de ce que je viens de raconter, ils savent, les gens littéraires, mais enfin, sur l'histoire et sur les relectures. Mais eux ont une lecture entièrement symbolique, allégorique de la Bible. Prendre la Bible au sens littéral, dit Origène, il faut le faire. S'arrêter là, c'est blasphématoire. C'est blasphématoire, il n'y va pas par quatre chemins. Parce que la Bible dit beaucoup plus. Et donc, eux, la lisent sur le plan symbolique. À toutes les époques, on a essayé de lire la Bible avec les moyens du bord. Bon. Évidemment, depuis 3-4 siècles, Richard Simon, c'est quand même le 17e, ça va faire 4 siècles. Et la grosse masse de recherches faite d'abord par la philologie allemande extraordinaire au 18e et 19e siècle, et puis par les exégètes, au fond, européens, puis ensuite, enfin, américains, on a beaucoup avancé dans les recherches sur la Bible. Or, il faut toujours savoir qu'actuellement, dans l'approche de la Bible, on a plusieurs tendances qui ont évidemment, comme toujours, dès qu'on a plusieurs approches possibles, les gens se battent en étant partisans de l'une ou de l'autre, mais qui ne sont pas incompatibles et pas contradictoires. Elles sont simplement, une fois de plus, des éclairages différents. Il y en a une qui, en monde protestant et catholique, même si certains évangéliques restent sur le bord du chemin, mais pas tellement, qui est massivement la première. Et la commission biblique pontificale l'a écrit dans des textes qui ont été préfacés par celui qui était alors le cardinal Ratzinger. La première type d'approche, celui qui est indispensable, est cette approche historique et critique avec laquelle je viens de fonctionner. Voilà. Tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, pratiquez en fait cette approche historique et critique, qui est évidemment beaucoup plus large que ce que j'ai fait. Rapport à l'archéologie, rapport aux civilisations et aux textes environnants, travaille sur le texte lui-même pour, dans ce texte, dégager justement ces petites unités ou ces gros morceaux qui sont d'une époque et pas d'une autre. Le premier récit de la Genèse, Genèse 1, est une espèce de texte liturgique qui célèbre le Dieu Israël qui crée par la parole, le Dieu 1, créateur, par la parole et par la douceur, contre les dieux babyloniens, et ça date certainement de l'époque babylonienne, 6e siècle, le texte suivant d'un dieu potier, qui se rapproche beaucoup plus des mythes et légendes assyriennes, et probablement plus ancien, de 2 siècles. Voilà. Aujourd'hui, jusqu'ici, on a énormément travaillé comme ça. Avec le risque d'arriver à une espèce d'émiettement de ces textes, une fois que vous les avez découpés en rondelles, vous pouvez toujours manger les rondelles de saucisson, mais vous n'avez plus le saucisson entier. Vous ne savez plus la tête qu'il avait. Voilà. Donc, il a fallu dans un deuxième temps, et ce temps se poursuit encore aujourd'hui, non pas seulement disséquer le texte pour en reconnaître les morceaux de dates et de lieux différents, mais travailler sur la façon dont ce texte a été recomposé, sur au fond ce qu'on appelle souvent la rédaction, l'histoire de la rédaction. Comment ces morceaux de texte, ces traditions anciennes, et pourquoi elles ont été reprises, mises ensemble. Et finalement, ce que les philologues et exégètes du XIXe siècle nommaient avec un peu de mépris le rédacteur final, parce que pour eux, il y avait les choses anciennes et cet émiettement de sources anciennes qui était important. Ce qu'ils nommaient avec un peu de mépris le rédacteur final est devenu finalement l'auteur qui nous intéresse. Au bout du compte, qu'est-ce qu'il a voulu dire, celui-là, en juxtaposant les deux récits de la Genèse? Qu'est-ce qu'il a voulu dire, le rédacteur final du livre d'Amos, en insérant cette finale d'espérance? Ça va? Donc, le travail historico-critique et l'ensemble de ce travail, qui part, j'allais dire, d'utilisation de divers, de l'archéologie, du travail sur les textes extérieurs, qui travaille sur le texte biblique pour en dégager les éléments, et voir la tradition orale qui est derrière, mais aussi qui s'intéresse à ce travail de composition finale qui a un sens et qui est porteur d'une théologie et qui est finalement ce qui fait l'ensemble de ces livres. Ça va ? On appelle ce type d'exégèse, quand elle va jusqu'au bout, l'exégèse historico-critique. Elle est critique, elle discerne et elle suit une méthode historique en mettant les textes dans leur milieu, ce qu'ils appellent les milieux de vie. Comme l'exégèse historico-critique tardait à faire ce dernier travail, c'est-à-dire à s'emparer de l'ensemble d'un texte et de sa rédaction finale, d'autres formes d'exégèse sont apparues au tournant des années 70. Moi, je l'ai vécu de façon vraiment très, très marquée. Sont apparues alors des lectures qui ont dit ces textes sont essentiellement des textes de récit, je vous le disais tout à l'heure, des narrations. Certains utilisent davantage des procédés rhétoriques. Essayons de travailler le texte tel qu'il est, comme un fait narratif, comme on travaillerait un roman, en prenant un texte pour lui-même, à plat, et en travaillant ce qui fait son intrigue. Voilà. On s'est intéressé, ça marche pour certains textes, moins à d'autres, c'est plus difficile sur les psaumes, par exemple, mais on s'est intéressé à l'intrigue du texte, au fait qu'il y a des personnages, et on a utilisé les choses qui ont été les catégories qui ont été mises en route à cette époque, avec Grémas et la suite, le texte a un destinateur, un destinataire, il y a quelqu'un qui, au fond, il y a une espèce de nœud à défaire, voilà, le texte propose un nœud à défaire, hein, c'est l'intrigue, et il y a quelqu'un qui lance l'affaire, il y a des adjuvants, des opposants, et il y a un résultat final. Bon, il y a des choses très simplifiées qui ont été dites, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'on a utilisé des méthodes littéraires à propos des textes bibliques qui ont joué sur cet état final du texte qui nous intéresse aussi quand on a fait le détour par l'histoire. Et donc, vous entendrez parler de ces approches narratives, rhétoriques, on parle beaucoup de narratologie, enfin, c'est très à la mode. Et puis, finalement, les exégètes chrétiens, parce que ça, c'est quand même très large, ce travail de narrativité, on dit on ne peut pas lire un testament sans l'autre. Nous, chrétiens, nous lisons, nous appelons ancien la première partie, nous appelons nouveau testament, mais on ne peut jamais lire l'un sans l'autre, en tout cas de notre point de vue. Et donc, ils ont développé cette lecture que les pères de l'Église, alors là, on retrouve les pères de l'Église, faisaient fonctionner tout le temps, qui est cette lecture en miroir de l'un et l'autre testament. L'ancien annonçant, le nouveau ou préparant, etc. Alors là, il va y avoir un débat avec le monde juif, et j'en reparlerai tout à l'heure. On appelle cette approche, qui n'est pas une méthode, mais qui est davantage une approche, l'approche canonique, c'est-à-dire on s'empare de l'ensemble du canon chrétien. Et on dit comment ça fonctionne cet ensemble, ce canon chrétien, depuis le début de la Genèse. Au commencement, on en a un commencement, Dieu créa, et la fin de l'Apocalypse vient Seigneur Jésus. Donc, travailler l'ensemble. Voilà, pour que vous soyez un petit peu au point sur ce qui se fait, au point que vous sachiez un petit peu ce qui se fait actuellement. Quand vous travaillez avec une Bible qu'on appelle des Bibles de travail, moi, je conseille quand même avant tout la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, même si elle n'est pas parfaite. On vient de lancer avec les éditeurs de la TOB, un chantier sur 20 ans, j'en verrai pas la fin, je serai morte, mais je participe au lancement du chantier, pour une révision du texte de la TOB. Donc rien n'est jamais parfait, aucune traduction ne peut s'arrêter, on doit toujours reprendre la traduction de la Bible, j'en reparlerai aussi. Mais je vous conseille la TOB, d'abord parce que c'est une Bible œcuménique, dans son nom, traduction œcuménique de la Bible, et que donc vous avez l'écho quand même d'autres confessions chrétiennes qui... On travaille ensemble, hein, il n'y a pas de différence entre les exégètes, mais c'est important. Et parce que les notes sont souvent remises à jour. Voilà. Il y a une édition en 2005, une édition en 2010, et il y en a une autre en chantier. Voilà. Vous pouvez aussi travailler avec les notes de la Bible de Jérusalem, et vous pouvez travailler avec les notes de la Nouvelle Bible, ce qui s'appelle la Nouvelle Bible Second, NBS, qui est aussi une Bible avec beaucoup, beaucoup de notes d'introduction, de détails. Vous trouvez dans les notes ces éléments, surtout dans la TOB, ces éléments qui ont été acquis par l'exégèse historico-critique. Ce passage relève plutôt de telle époque. Ce passage, voilà. Ça vous donne des indications. Ça attire aussi votre attention sur le fait que là, vous devez vous poser la question. Mais enfin, alors du coup, comment ça fonctionne avec le reste? Comment le tout fonctionne? C'est quand même ça qui doit nous parler aujourd'hui. Ça va, ça? C'est pas très simple. Oui, question. Non. La question est sur les notes de la TOP, pour ceux qui n'ont pas entendu, les notes de la dernière version de la TOP. La dernière édition de la TOP date de 2010. La dernière édition de la TOP de 2010. Faites attention, la TOP, elle se vend sous deux formes. Il y a la forme de la Bible complète, avec les notes abondantes, et ce sont à peu près les mêmes, je vais dire pourquoi la différence, hein, en 2010 qu'en 2005 et qu'auparavant. Et il y a la TOP abrégée, la TOP note essentielle, qui a, alors, c'est la différence entre les notes intégrales et les notes essentielles. Voilà. Le gros livre, c'est le texte intégral. Le plus petit livre, c'est les notes essentielles, celui qu'on peut transporter. Alors, il va vous manquer de notes. Quant à la TOP de 2010, sa vraie différence, c'est d'avoir intégré dans le canon, c'est-à-dire dans le livre relié, les six textes qui n'y étaient pas et qui appartiennent depuis toujours au canon des églises orthodoxes, des églises d'Orient. Voilà. Il y avait six textes, 3-4 Esdras, 3-4 Maccabée, le psaume 151, la prière d'Ézéchias, qui n'appartenaient pas au canon catholique ni protestant et qui appartenaient au canon orthodoxe et qu'on a intégré dans la TOP 2010. Mais sinon, les notes sont à peu près les mêmes. Voilà. Ça va ? Alors, maintenant que je vous ai bien dit, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'auteur, etc., je vais quand même vous en donner un peu, parce que sinon c'est trop frustrant. Voilà. Après vous avoir raconté qu'on ne peut rien dater, on ne peut pas trouver un auteur, je vais quand même, non pas vous donner des auteurs, mais essayer de dater un peu. Essayer de dater un peu, on parle souvent, enfin il y a des historiens exégètes que je trouve très intéressants, qui ont parlé d'époque axiale. En regardant, et quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, l'ensemble de l'histoire du monde connu à l'époque. On ne va pas entendre parler des Amériques. Hein, mais l'ensemble du monde connu. Or, le monde connu, il va quand même jusqu'à la Chine, dont la civilisation ancienne est extraordinaire. Or, on s'aperçoit que dans cet ensemble du monde connu, autour du VIe siècle, et les raisons sont probablement sociopolitiques, peut-être aussi démographique, donc lié peut-être au climat, mais ça va, bon, je laisse les climatologues en parler. On s'aperçoit qu'il y a, à de nombreux endroits dans le monde connu, l'émergence d'une pensée religieuse, philosophico-religieuse, extrêmement forte. Voilà. Une effervescence et l'émergence de grandes figures et de grands penseurs religieux qui ont entraîné à leur suite, au fond, tout un courant. Si vous regardez bien, en Inde, vous avez le Bouddha. C'est à peu près cette époque, VIe siècle. En Chine, c'est l'époque de Confucius, qui est quand même le sage des sages. Lao Tzu viendra un peu après. Dans le monde de la Perse, vous avez Zoroastre. On parle de Zarathoustra, Zoroastre. Hein, les religions de la Perse, les religions de la lumière et du soleil. En Grèce, vous avez les présocratiques, premier passage du récit mythique à l'effort pour une pensée du logos, de la raison. Et en Israël, vous avez l'exil à Babylone. Or, il semble bien que ce soit au moment de cet exil à Babylone, et en même temps que du retour sur la terre d'Israël, l'exil à Babylone, c'est 597 ou 587 jusqu'à 538, avant Jésus-Christ, hein. Cœur du VIe siècle, et le retour, c'est entre 538 et 500, même un peu plus tard. Ouais. Il semble bien que ce soit à ce moment-là qu'ait été mise en forme cet ensemble immense de traditions compilées, relues, rédactions, et qu'on ait au moins bouclé, clôturé, mais ça sera net un peu plus tard, la Torah, c'est-à-dire les cinq premiers livres. Le mot Torah, qu'on traduit par « loi » en grec, n'étant pas la loi d'Israël, mais l'orientation, la direction. La Torah, c'est l'orientation, le chemin de vie, et c'est sous le grand signe de Deutéronome 31. Tu as devant toi deux voies, la vie et la mort, choisis la vie. la Torah va être probablement bouclée à cette époque. Ça veut dire qu'on met en forme, et il faudra en reparler, mais la Genèse, avec ses traditions diverses, l'Exode, qui est complètement une autre tradition, la Genèse, ce sont les patriarches, l'Exode, c'est Moïse, c'est le peuple qui sort d'Égypte. Entre les deux, il y a un grand trou. Hein. On quitte, dans la Genèse, la descendance de Jacob avec Joseph au plus haut sommet de l'État égyptien, puisque, en gros, Joseph est devenu vizir. Hein, et il s'installe là pour vivre. On va les retrouver au début de l'Exode, au fond du trou, parce que vint un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph et qui va les réduire en esclavage. Donc, nouveau départ. Mais à ce moment-là, on rédige l'Exode et on le met après la Genèse. Il faudra s'interroger sur la suite. On rédige aussi les récits du désert qui sont dans l'Exode et qui sont surtout dans le livre des Nombres. On intègre les textes de loi. On va entre les deux finir, et ils seront peut-être finis un peu plus tard, le livre des lois religieuses qui est le Lévitique, hein, Exode Lévitique, non ? Et enfin le Décalogue qui est une espèce de relecture de l'enseignement de Moïse au désert et de la promulgation de la loi de Dieu. Et on va clore la Torah probablement. Alors, on ne sait pas trop à quel siècle, probablement au cours du 5e siècle, avec un personnage très intéressant qui est le scribe ou prêtre Esdras. Esdras est un juif qui est sur place à Jérusalem et qui, aidé par le pouvoir perse, parce que le pouvoir perse a été assez favorable, a, au fond, rétabli le culte, réorganisé pas mal la vie, le temple est reconstruit. À l'époque d'Esdras, je crois qu'on commence à reconstruire même les remparts, et qui va dans une grande célébration, je ne sais pas si je vous l'ai mis le texte, non, je ne l'ai pas mis, au chapitre 8 du livre de Néhémie, dans une grande célébration, lire devant tout le peuple rassemblé la loi de Dieu. Alors, il y a dans ce texte des choses intéressantes, parce qu'on vous parle tantôt du prêtre Esdras, tantôt du scribe Esdras, on pourra en reparler, mais il est à la fois scribe et prêtre. Il rassemble en sa personne, en la présentation de sa personne, les deux grandes tendances au pouvoir, si on peut dire, puisque on est sous le pouvoir perse, mais au pouvoir religieux à l'époque, les docteurs et les scribes d'un côté, les prêtres de l'autre. Esdras est les deux. Et il va rassembler donc des récits appartenant aux deux traditions et discutés entre eux en un seul livre. Et il fait la lecture devant le peuple rassemblé avec les hommes, les femmes, les enfants, tous ceux qui étaient en âge de comprendre, qui vont pendant toute la matinée écouter la lecture du livre de la loi. Une remarque intéressante sur ce texte de Néhémie 8, c'est qu'il y a des gens pour interpréter ou traduire ce que dit Esdras. Esdras lit un texte qui est en hébreu. À l'époque, on ne comprend déjà plus l'hébreu dans le peuple. Tout le monde parle araméen. À Babylone, on parlait araméen, c'est la langue diplomatique de l'Empire perse. Tout le monde parle araméen et il faut traduire d'une langue dans l'autre. Et donc, c'est un texte traduit que l'on entend, alors que le texte, lui, est écrit en hébreu. Alors, on dit qu'à ce moment-là, la Torah, donc ces cinq livres, est à peu près close avec ce dialogue entre les scribes et les prêtres. Il y a eu peut-être des ajouts encore après, hein, on ne sait pas. Mais voilà, ça donne au fond le premier grand bloc qui vont être les cinq livres fondamentaux du judaïsme. C'est probablement aussi à la même époque qu'on commence qu'on rassemble déjà les traditions prophétiques, qu'on boucle le livre d'Amos, qu'on boucle le livre de Jérémie, etc. Et on ne boucle pas le livre d'Isaïe, dont une troisième partie sera écrite encore plus tard, au moment du retour, vers le 4e siècle. Et on va vivre avec ça. J'ajoute que tout cela est en hébreu et qu'il faut donc le traduire en araméen pour entendre. Mais que, après la conquête d'Alexandre, c'est-à-dire que là, j'avance dans le temps et j'arrive tout à ce que je vous disais tout à l'heure, maintenant, c'est les Grecs qui arrivent. Alexandre qui balaye tout en 10 ans. Et qui va... Alors, Alexandre était sûrement pas un tendre, hein, sûrement c'était fait de pillage et de destruction. Il a quand même cette qualité d'avoir aussi un sens de la civilisation et de la civilisation grecque. Esdras détruit et balaye, mais partout, il reconstruit des villes, ou fait reconstruire, c'est pas lui, fait reconstruire des villes avec ce qui est fondamental pour la ville grecque, un gymnase, où on développe le corps, et un lycée ou une bibliothèque où on développe les cultures de l'esprit. Et si vous regardez une carte de l'époque, autant qu'on a pu les reconstruire, évidemment, mais quand on regarde une carte de l'après-Alexandre, on s'aperçoit qu'il y a jusqu'aux abords de l'Inde des Alexandries un peu partout. Vous, vous connaissez l'Alexandrie égyptienne. Mais non, il en a mis partout des Alexandries. C'est-à-dire que partout, il a installé la culture grecque. Or, il l'a installé en particulier en Égypte, à Alexandrie. Or, en Égypte, à Alexandrie, et on est là au 3e siècle avant Jésus-Christ, je vous rappelle qu'Alexandre, c'est 333, on compte à l'envers, hein, 333-323. Il commence la conquête en 333 et il meurt en 323. Je me trompe peut-être d'un an, mais c'est quelque chose comme ça. Bon. Donc, à partir d'Alexandre, en Égypte, on va de plus en plus parler grec. Et les successeurs d'Alexandre seront des rois grecs, tout le monde parle grec. Or, en Égypte, depuis longtemps déjà, il y a des communautés juives importantes, très importantes depuis le 4e, 5e siècle. Au début du 3e siècle, l'un des pharaons égyptiens, alors c'est plus des pharaons, c'est des rois grecs, mais ils aiment bien se faire appeler pharaon. Un des rois grecs demande que soient traduits en grec les lois des peuples qu'ils dominent. Or, sous les peuples qu'ils dominent, il y a des paysans égyptiens et on traduit leur, ce qu'on appelle leurs coutumiers en grec, mais il y a beaucoup de juifs et des juifs avec une forte population de type intellectuel, de gens qui réfléchissent, etc. Et donc le pharaon va demander, le roi va demander que soit traduit en grec pour mettre dans sa bibliothèque, peut-être aussi parce qu'il voulait savoir quelles étaient les lois qui régissaient ces gens qui étaient quand même sous ses ordres, de traduire la Torah en grec. Et donc, au début du 3e siècle avant Jésus-Christ, en quelques années, la Torah à Alexandrie est traduite en grec. Comment ça s'est fait ? Ça se discute. On ne sait plus aujourd'hui si c'est le roi et son bibliothécaire, Démétrios de Phalère, parce qu'il y a une grande bibliothèque à Alexandrie, hein, qui a brûlé plein de fois, mais il y a une grande bibliothèque classique depuis longtemps, qui ont imposé ça. Est-ce que c'est la demande des Juifs qui ont raconté ensuite que c'est eux qui avaient imposé ça ? Ce n'est pas vrai. Comment ça s'est passé ? La légende qui court à deux ou trois endroits dans des textes plus tardifs, c'est que le roi a demandé qu'on lui envoie de Jérusalem 70 ou 72, ça dépend les cas, juifs parlant les deux langues, parlant à la fois l'araméen et connaissant l'hébreu de leur texte, et parlant grec. Et ces 72 anciens, ces 72 sages, il les a accueillis à Alexandrie, il les a interrogés sur les coutumes et rites de leur peuple, et ensuite, il les a installés magnifiquement dans l'île de Pharos, dans des petites maisons au bord de la plage, comme un club méditerranéen aujourd'hui, chacun dans sa petite maisonnette, avec des repas somptueux, ils étaient bien nourris, vous inquiétez pas, avec comme ordre de traduire entièrement la Torah hébraïque en grec. Ils ont dû y passer un moment, peu importe. La légende veut que lorsqu'ils ont eu fini, étant bien traités, alors le matin, ils allaient au bain, enfin, on les soignait bien. Lorsqu'ils ont eu fini, ils sont sortis avec chacun leur traduction, et miracle, les 70 traductions étaient identiques. Et donc, le peuple a crié, voilà, c'est le livre inspiré, il est désormais écrit en grec. Bon, ce n'était pas vrai, c'est une histoire, parce que ce livre, cette traduction en grec, a eu des formes assez diverses à travers l'histoire. En tout cas, on a appelé cette traduction grecque de la Torah, des cinq livres d'Israël, le Pentateuque, cinq rouleaux, et l'ensemble a pris le nom de la Septante, parce qu'il y a la légende des 70 vieillards. À peine ce travail terminé, les vieillards, pourquoi des vieillards ? Parce que les sages et les anciens, c'est toujours des vieillards à l'époque. À mon avis, s'ils avaient 50 ans ou 40, c'est pas grave. Ces 70 sages ou d'autres, et bien sûr d'autres, se sont mis aussi à traduire les livres importants qui étaient utilisés dans les synagogues. Donc on a traduit quoi ? Une fois qu'on avait la Torah, le prophète Isaïe et les psaumes. Et ils ont commencé à traduire ça. Et puis, chemin faisant, tout au long du siècle, et ça va durer jusqu'au milieu du 2e siècle avant Jésus-Christ, vers 150, on a traduit tout le reste. Et finalement, ces Juifs d'Alexandrie et ces Juifs du pays d'Égypte, mais aussi les Juifs de Babylonie et d'ailleurs, pour ceux qui, et de la diaspora grecque, tous ceux qui parlaient grec ont eu leur Bible en grec. Ça marche ? C'est cette Bible en grec qu'on appelle improprement, parce que c'est une extension du noyau, la Septante. Voilà. Et donc, je vous ai mis, la Torah devient le Pentateuque. Est-ce que ça, c'est clair? Oui? Eh bien, on ne sait pas. Qui a demandé la traduction de la Septante? On ne sait pas. Il y a plein de disputes là-dessus. Il y a des gens qui disent que c'est une initiative juive. La plupart des chercheurs aujourd'hui considèrent que c'est une initiative du roi d'Égypte grec et de son bibliothécaire, qui était un homme cultivé, Démétrios de Phalère. Après, les raisons, là aussi, sont disputées. Il y a des gens qui disent que c'était, c'est pas vrai, un homme pieux que ça intéressait. Il y a des gens qui disent, et je pense qu'ils ont raison, que ce roi grec avait envie de savoir comment se déroulait, quelle était la législation, quels étaient les us et coutumes de cette population qu'il avait sous ses ordres et qui était passablement importante et turbulente et qui intellectuellement travaillait beaucoup. Bon, probablement, c'est ça la véritable raison. Alors, on a dit aussi, effectivement, les Juifs d'Alexandrie en avaient besoin dans leur synagogue. Ils savaient plus les... Enfin, ça reste encore pas mal disputé. En tout cas, si je vous raconte tout ça, c'est intéressant parce que vous voyez bien que on a là une traduction en grec du texte hébreu fixé, à peu près fixé dès ce moment-là, même si la lecture en sera fixée 10 siècles plus tard, peu importe. On a une traduction en grec de la Bible hébraïque par des Juifs et pour des Juifs. Or, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ, lisent quoi? Pour quelques-uns, la Bible en hébreu et les textes araméens, mais pour la majorité, en tout cas, de nos évangélistes, de ceux qui écrivent, de Paul, ils lisent la Bible en grec. Voilà. Et donc, c'est cette Bible grecque qui va être tout entière à l'arrière-plan et sans cesse travaillée dans notre Nouveau Testament. D'une certaine façon, quand dans la Bible actuelle, j'espérais que le libraire viendrait et nous en apporterait, peu importe, il est là, parfait. Jean-Denis, vous me filez une Bible? D'accord. Dans la Bible actuelle, qui est la Tob, et qui est la Bible de Jérusalem, un peu moins, mais vous avez au fond quelque chose d'un peu, qui est à la fois œcuménique, respectueux du judaïsme, mais un peu faux du point de vue chrétien, parce qu'on a la traduction de la Bible en hébreu, des textes en grec rajoutés dans la période des deux derniers siècles avant Jésus-Christ, par les Juifs de langue grecque que les autres n'ont pas accueillis. Et tous ces textes sont, au fond, quand ils ont été traduits, quand les premiers ont été traduits en grec et les autres en grec sont là, ont été récupérés par les chrétiens, et que normalement, une Bible chrétienne, c'est une Bible qui contient... Ah, mais je veux pas tout ça, moi. Mais ça ne fait rien, mettez-moi tout ça là, je vais lui montrer tout à l'heure. L'Ancien Testament grec et le Nouveau Testament grec. La Bible chrétienne, c'est tout en grec normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Par respect pour le judaïsme et parce que nos auteurs du Nouveau Testament connaissaient aussi, au moins certains, l'hébreu. Paul connaissait aussi la Bible en hébreu, mais c'est toujours la Bible en grec. On a traduit désormais la Bible hébraïque. Et ça commence avec la Bible de Jérusalem, c'est vrai aussi, de la Bible de Second et de la Bible de la Tob. Mais en réalité, la Bible chrétienne, c'est une Bible grecque d'un bout à l'autre. Ça va? Et notre véritable Ancien Testament, c'est la Septante. Alors aujourd'hui, la Septante est à l'honneur. Il y a eu des groupes sous la direction de Marguerite Arles, qui est morte il y a 2 ans, à 100 ou 102 ans, qui a lancé ça. La Septante est travaillée et traduite. Et on travaille beaucoup sur la Septante, donc elle est remise à l'honneur. Il n'empêche que nous lisons toujours quand même, et avec raison, la traduction de la Bible hébraïque. Ça marche? Voilà, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir ça parce que dans le Nouveau Testament, il y a des choses qui sont absolument incompréhensibles par rapport à l'Ancien Testament en hébreu. Incompréhensible parce que ça joue sur l'Ancien Testament grec et que la traduction a changé beaucoup de choses. Même si elle était parfaite et qu'ils ont tous trouvé la même, ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, je continue là avec ce que je viens de vous dire. Les langues de la Bible sont multiples, du côté juif et du côté des éditions récentes de travail, et même des éditions courantes, de l'Ancien Testament en hébreu on a essentiellement un texte hébreu avec quelques passages en araméen dans le livre de Daniel, enfin ça ne vous intéresse pas beaucoup, qu'on a un Ancien Testament grec qui n'est pas édité dans ces livres, qui est la Septante, et qui est la traduction en grec de ce texte avec beaucoup de variantes et des livres ajoutés, traduction pour le judaïsme et des livres juifs ajoutés, mais qui ne sont pas rentrés dans le texte hébreu. Et notre Nouveau Testament est entièrement en grec. Ça va, ça ? Voilà. Vous le sachiez, parce que c'est important, on dit beaucoup de bêtises. L'Ancien Testament, oui, il y a un arrière-plan en hébreu derrière Matthieu. Peut-être, peut-être, moi, j'en sais rien. En tout cas, il y a certainement eu des choses en araméen sur le Nouveau Testament. Mais on n'a rien que des textes grecs. Voilà. Ce qu'on a, c'est du grec. Je ne plaide pas pour ma paroisse, c'est un fait. Voilà. À partir de là, je voudrais vous dire la façon dont, juifs d'un côté, surtout à partir du texte hébreu, mais aussi à l'époque à partir du texte grec, et chrétiens de l'autre, se rapportent au livre, à la Bible que les juifs n'appellent pas la Bible. Les juifs appellent leur Bible en hébreu le Tanakh. Ce texte hébreu est un texte qui a été fixé du point de vue des consonnes, parce que l'hébreu est une langue consonantique dont normalement on ne met pas les voyelles. Vous devez savoir la langue pour lire, c'est comme l'arabe. Moi, je déchiffre difficilement l'arabe quand il y a les voyelles dessous. Si vous m'enlevez les voyelles, oh, je ne sais plus faire. Voilà. Donc, le texte, d'abord, est un texte consonantique, avec juste les consonnes, c'est pour ça que je les ai mis en majuscules. Voilà. Juste les consonnes. Et ce texte a été certainement fixé, en tout cas, il l'est à l'époque de Qumran. Les plus anciens documents qu'on a, c'est Qumran, c'est 1er siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 1er siècle après. Et là, on a un texte en hébreu déjà fixé. Mais, comme on a un texte consonantique, il faut lui mettre des voyelles. Vous voyez bien qu'en français, si je vous écris les voyelles du verbe aimer, A-M-R, prenez les quatre consonnes, le A est déjà une consonne, c'est M-R. Avec ça, vous pouvez faire aimer, amour, amer. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre encore ? Émir, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, il a fallu, parce qu'il y avait trop de diversité dans la lecture du texte hébraïque, que des exégètes, des penseurs juifs, des rabbis, ça s'appelle, travaillent pour fixer les voyelles. Les voyelles ont été fixées par ce qu'on appelle les massorètes, d'où le mot de texte massorétique. Ces massorètes sont des gens qui ont travaillé du 6e au 9e siècle après Jésus-Christ. La fixation du texte en hébreu par les juifs, elle est très tardive. Ça va ? Elle est 6e siècle au 9e siècle après Jésus-Christ. Les consonnes étaient fixées depuis déjà au moins aussi loin qu'on a des témoignages, des manuscrits. On a ceux de Qumran, 2e siècle. Mais la lecture, la façon dont vous devez lire, donc le voyelle, la vocalisation, a été fixée très tard. Ça marche ? À l'époque de Jésus, elle n'était pas fixée. Il y avait déjà pluralité de lecture. Okay. Bon. Le texte hébraïque ainsi fixé est formé de trois parties. Or, c'est très différent de la façon dont nous concevons notre Ancien Testament, parce que nous appuyons sur le texte grec. Le texte hébraïque est formé de trois parties qui se comprennent comme emboîtement de cercles de moins en moins, j'allais dire, importants, de moins en moins fondateurs. Au centre, la Torah, orientation, enseignement, direction que la vie doit prendre. Tu choisis la vie, ça marche ? Vous voyez ça ? Au centre, le cercle de la Torah. Ça va ? Autour, les prophètes. Les prophètes, à la synagogue, on lit d'abord la Torah et on la traduit mot à mot. Après, on lit un passage des prophètes. Et là, on traduit rapidement, en gros. Parce que les prophètes sont importants, mais secondaires. Or, les prophètes en hébreu, ça se dit nébihim. Les nabis, il y a eu un mouvement de peintres au début du XXe siècle qui se sont appelés les nabis. Ça veut dire prophètes. Donc, secondairement, les prophètes. Les prophètes sont censés éclairer, expliciter la Torah. Ce n'est pas exactement vrai, mais voilà. Surtout qu'il y en a qui ont écrit bien avant que la Torah soit mise définitivement par écrit, bien avant. Et tout autour, enfin, troisième cercle, le plus lointain, les écrits, Ketuvim. De Kitav, écrire, Ketiv, l'écrit. Les écrits, qu'est-ce que c'est? Les psaumes, au premier lieu, les proverbes, un livre comme le livre de Daniel, Job, évidemment, Job, les cinq rouleaux, le livre de Daniel, etc. Voilà. C'est circulaire, c'est des livres qu'on lit, mais ça n'a pas l'importance centrale de la Torah. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Et en plus, tout autour, il y a des livres qu'on lit, même s'ils n'entrent pas dans le canon des Écritures. Et on les lit même pour des grandes fêtes juives. Mais le canon, c'est ça. Et à cause des initiales, Torah, Nibim, Ketuvim, on parle du Tanakh. Ça va? C'est-à-dire que les Juifs, aujourd'hui, ne parlent pas de la Bible. Si, parce qu'ils vous connaissent, ils savent que les chrétiens parlent de la Bible. Mais eux, leur livre, c'est le Tanakh. Ça marche? Et ils le lisent toujours de cette façon circulaire. Alors, du coup, ils ne sont pas fous. Ils savent aussi bien que nous qu'il y a deux textes différents, deux récits différents de la création du monde. Ils savent aussi bien que nous que le prophète Amos a été écrit en plusieurs morceaux, et encore plus Isaïe, Jérémie, que tout ça s'étend sur des siècles. Mais ils n'ont pas la même démarche que nous. Pour eux, le livre est comme ça, il est donné comme ça, et c'est chaque élément du livre qui est signifiant. Chaque élément du livre peut être interprété. Ça s'appelle, ils font jouer le livre aux éclats. Chaque verset a un sens, et en a plusieurs, et on peut interpréter sans fin un verset. Chaque récit a un sens, et en a plusieurs, et on peut interpréter. Et peu importe qu'il soit contradictoire, c'est la richesse de la parole de Dieu. Ça va ? Alors, ensuite, ça ne fait pas le tout, ça, des livres juifs. Vous savez qu'ensuite, les juifs vont commenter et ajouter surtout à ce livre de la Torah, de la loi, prophète et écrit au Tanakh, d'autres corpus très importants, notamment la Mishnah, qui est une espèce de répétition vers le 3e, 4e siècle, 2e, 3e siècle, et ensuite une reprise de la Mishnah dans le Talmud, l'enseignement, qui va être cet énorme livre, qui va commenter, ajouter des textes de loi orale, etc. Tout ça, ça s'appelle la loi orale. C'est mis par écrit, bien sûr, mais ça s'appelle quand même la loi orale par rapport à la Torah, la loi écrite, qui est cet énorme ensemble de livres dont le dernier, la dernière main, le dernier auteur qui est introduit dans le Talmud est un Français, une gloire de la France, Rashi, Rabbi Rashi, à Tours, à Troyes en Champagne, hein, où il y a effectivement les écoles de Rashi, etc. Aujourd'hui, un gros développement de recherche juive. Rashi écrit au 11e siècle, début du 11e siècle. Ce sont les commentaires de Rashi qui sont les derniers à entrer dans le Talmud, le gros livre d'enseignement des ensembles de lois orales du judaïsme, qui entoure encore en cercle les cercles que j'ai dessinés là. Ça marche ? Et puis ensuite, il y a les commentaires à l'infini qui continuent. Donc ça, c'est la façon dont le judaïsme se rapporte au livre, avec des traditions de rabbins qui, l'un à l'autre, discutent, un tel rabbi, un tel dit ceci, rabbi, un tel dit cela, et moi, dit rabbi tel autre, je dis cela, et on s'appuie toujours sur les rabbis précédents pour leur faire dire quelque chose de nouveau qu'on dit soi-même. Mais on dit qu'on dit ce qu'ils ont dit. Et c'est assez fabuleux comme entreprise. Nous, on a du mal à y entrer, mais c'est magnifique. Les chrétiens n'ont pas lu les écritures juives comme cela. Pour les premiers chrétiens, les disciples de Jésus et Jésus lui-même, les Écritures, c'est les Écritures juives. C'est peut-être pas encore tout à fait le Tanakh, mais c'est déjà la loi et les prophètes. Parce qu'on trouve déjà ce binôme, la loi et les prophètes, dans l'Évangile. On trouve même une tripartie en 130 avant Jésus-Christ, chez un écrivain grec qui ouvre le livre du Siracide et qui dit la loi, les prophètes et les écrits. Donc c'était déjà en place, même si ce n'était pas clos. En tout cas, les chrétiens, eux, quand ils parlent des Écritures, et c'est encore vrai jusqu'au milieu du IIe siècle, c'est des Écritures juives, mais traduites en grec. Ça marche ? Et donc avec non seulement les trois parties que je vous ai dites, mais encore d'autres livres que le judaïsme n'a pas fait entrer dans son canon, mais c'était des livres juifs en grec que les chrétiens ont gardés. Or, les chrétiens, eux, ils lisent autrement. Ils lisent ce premier ensemble, cette première alliance, parce que le mot testament, c'est le mot alliance hein, en grec. Et en hébreu aussi, berit, ça veut dire tout, alliance, contrat, testament, etc. Surtout le mot grec qui veut dire testament. Il lit ça de façon historique, comme un processus continu qui va se dérouler dans l'histoire et conduire où ? Eh bien, au Nouveau Testament, à Jésus de Nazareth et au Nouveau Testament. Ça marche ? Donc, la Bible grecque, les chrétiens vont l'organiser autrement. On ne sait pas si les Juifs d'Alexandrie avaient déjà organisé comme ça leur Bible. On ne sait pas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de texte de l'époque. Donc, on ne sait pas ce qu'ils faisaient. Les premiers textes de ce que nous appelons, enfin, de la Bible juive en grec, de la Septante, sont des textes chrétiens. C'est des manuscrits chrétiens qui contiennent à la fois la Septante et le Nouveau Testament. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, c'est d'emblée une présentation chrétienne que nous avons de cette Bible juive en grec. Ça marche, ça ? Or, la présentation chrétienne, elle est essentiellement historique, parce que le christianisme, autant et bien plus encore que le judaïsme, est quand même une religion de l'histoire, du dessein de Dieu qui va à son terme dans l'histoire, ce Dieu qui s'approche des hommes, qui s'approche tellement, jusqu'à ce que sa parole se fasse chair, Jésus-Christ. Donc les chrétiens vont organiser les livres de la Septante comme ceci, évidemment au début la loi, alors avec un changement de nom qui est probablement catastrophique, mais on n'y peut rien, c'est que le mot Torah en hébreu est devenu nomos en grec. Et nomos en grec, c'est la loi. Et on n'a plus du tout cette idée d'une orientation, d'un accompagnement dans un choix de vie. On a la loi qui vous tombe sur la tête, d'en haut, avec en plus, quand ça sera transcrit dans le cadre juridique, tellement juridique du monde romain, ça deviendra la loi, le code de loi. Ça, c'est dommage. Bon, c'est comme ça. Ensuite, ils vont considérer qu'il y a des livres qui sont des livres historiques, alors qu'en fait, ces livres historiques, Josué, Juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, le judaïsme les appelait les prophètes premiers. Ils les mettaient dans les prophètes. C'est Dieu qui parle dans l'histoire. Les chrétiens vont considérer que c'est des livres historiques. Et donc, on va avoir une série de livres historiques. Ensuite, ils vont mettre tantôt les grands prophètes et les petits, le même livre que les prophètes des Nébihim, tantôt les écrits, ça dépend de l'ordre des manuscrits, parce que, normalement, devraient venir les prophètes et ensuite les écrits. C'est logique, ça suit le judaïsme. Mais, le dernier des prophètes, il s'appelle Malachie. Je ne sais pas si vous lisez souvent le livre de Malachie ou Malachie. Chapitre 3, à la fin du livre, et la fin du livre de Malachie au chapitre 3, vous dit que Dieu va venir régner et qu'il envoie Élie, son serviteur, pour préparer ses chemins. Vous comprenez bien que les disciples de Jésus qui vont se mettre à écrire les évangiles, ils vont considérer que le serviteur Élie, que Dieu va envoyer pour préparer ses chemins, tel que l'annonce le dernier prophète Malachie, ben c'est Jean-Baptiste et même c'est Jésus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, on a un des grands manuscrits de l'ensemble de la Bible grecque, au moins, et peut-être deux, qui ont renversé l'ordre et mis à la fin les prophètes pour que ça nous conduise jusqu'aux portes du Nouveau Testament. Ça marche ? Ouais. Alors, ensuite, du coup, les chrétiens et c'est un peu dommage, non, les erreurs viendront après, les pères de l'Église, la dimension historique les intéresse peu, je vous ai dit, tout est symbolique. Mais ensuite, les chrétiens vont lire ce qu'ils vont appeler l'Ancien Testament, qui n'est pas encore l'Ancien Testament. Les Écritures juives, comment ? Eh bien, à partir de la croix et la résurrection de Jésus. Autrement dit, ils vont poser ici, vous voyez la barre en biais là ? En fait, c'est une sorte d'aimant, de plaque aimantée qui va être mise là et qui va attirer à elle, à travers les livres de l'Ancien Testament, tout ce qui est l'émail de fer, non, tout ce qui est aimantable et qui peut se présenter comme annonce du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a plein de livres de l'Ancien Testament qui n'annoncent absolument pas ni un Messie, ni la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Mais majoritairement, les livres de l'Ancien Testament n'annoncent pas ça. Il n'empêche qu'il y a le livre de Malachie que je viens de citer, il y a évidemment l'annonce du roi Emmanuel dans Isaïe 7, il y a évidemment dans le deuxième Isaïe les annonces des serviteurs souffrants, il y a évidemment le prophète Jérémie qui annonce l'Alliance Nouvelle. Voilà, il y a une série de textes qui vont être lus comme des annonces de la vie, la mort sur la croix et la résurrection de Jésus. Ça marche ? À partir de ce moment-là, on va considérer, et ce n'est pas idiot, que l'Ancien Testament, au moins grec, est une, et c'est un terme des pères de l'Église, préparatio evangelica. L'Ancien Testament, c'est la préparation de l'Évangile. Les Juifs vous regardent avec des yeux comme ça et vous disent, mais attendez, qu'est-ce que vous racontez ? Nous, on ne lit pas du tout ça dans nos livres. Pas du tout, du tout ça. On ne lit pas ça. On lit la loi de Dieu, on lit choisit la vie, on lit les impératifs, on lit les observances, mais dans la Torah, rien dans la Torah. Vous voyez ce que je veux dire ? Nos lectures sont évidemment des lectures de points de vue extrêmement différents. Si bien que, et j'attire votre attention là-dessus, il faut se méfier quand nous parlons en dialogue avec le monde juif, d'Ancien et de Nouveau Testament, à tel point qu'à un moment donné, les chrétiens ont proposé de parler de Premier et Second Testament. C'est respectueux, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Parce que, effectivement, dans la réflexion chrétienne, et c'est dit tel que dans la lettre aux Hébreux, et une fois dans, je pense, dans une lettre, la lettre appartenant au corpus paulinien, oui. Lettre à Timothée, à la lumière de Jésus-Christ, c'est devenu l'ancien préparant le nouveau. Voilà. Pour eux, c'est un Ancien Testament qui a toute son importance et qui est essentiel, puisqu'il prépare, il annonce, il donne les moyens de comprendre la venue de Jésus-Christ. Mais c'est effectivement un premier temps avant le nouveau. Donc on a là deux lectures différentes et il faut respecter la différence des lectures. Ça marche ? Avez-vous des questions ? Je regarde l'heure, parce que je suis perdue. Questions là-dessus ou non ? Oui ? Vous êtes perdue au niveau des langues pour les disciples de Jésus et les évangélistes ? Alors, je n'ai pas été assez claire. Il est clair que Jésus de Nazareth lui-même et ses premiers disciples parlaient ce qui était devenu la langue courante depuis longtemps, puisqu'à l'époque d'Esdras, déjà 5e, 4e siècle, on ne parlait plus que l'araméen. L'araméen, alors il y a diverses formes d'araméen. Il y a un araméen plus proche de l'hébreu, il y a un araméen occidental, un araméen oriental. Ça se dispute aujourd'hui. Bon, peu importe. La majorité des gens, surtout dans les montagnes de Galilée, qui n'étaient pas quand même des lieux tellement cultivés. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de Nazareth, dit l'autre. Et quand on était un Galiléen, bon, vu de Jérusalem, on était vraiment quelqu'un d'un peu demeuré. La majorité des gens ne comprenaient que cet araméen-là, plus ou moins proche de l'hébreu biblique. Par contre, la tradition écrite, et les rabbis et les gens qui travaillaient le texte et qui lisaient le texte à la synagogue, lisaient un texte hébreu, comprenaient un texte hébreu. Et Jésus étant probablement en partie un lettré, lisait l'hébreu des écritures juives. Ça va ? Ses disciples, je ne suis pas sûre, les pêcheurs galiléens, je ne suis pas sûre, il y en a probablement, etc. Bon. S'il lisait l'araméen, c'est que c'était traduit, il parlait araméen, il comprenait ce qui était dit dans la traduction qu'on appelle le targoum oral, fait à la synagogue. Donc, ils avaient quand même un accès constant, au moins les hommes, mais les femmes aussi à la maison, parce qu'il y avait vraiment une culture. Un accès constant à ces écritures via, au moins, la traduction orale en araméen. Voilà. Quand vous regardez les évangiles, vous voyez bien que le psaume qui est mis dans la bouche de Jésus en croix, le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» est mis sous sa forme araméenne. le verbe, c'est la forme araméenne, même si elle, elle est différente de Matthieu et Marc, c'est quand même toujours le verbe en araméen, sabachthani, qui est là. Donc, on me disait peut-être aussi les psaumes en araméen, je ne suis jamais arrivée à tirer quelque chose au clair de mes collègues spécialistes de la question. En fait, ils ne savent pas. Moi non plus. Voilà. Ceci dit, Paul de Tarse, lui aussi, devait connaître l'hébreu, il pouvait parler araméen certainement. Mais sa langue courante, sa langue maternelle, la langue avec laquelle il s'adresse à toutes les communautés. Je parle de Paul de Tarse parce que c'est le premier dont nous ayons les écrits. Les premiers écrits, c'est Paul, 49 après Jésus-Christ, ça ne fait pas longtemps, ça fait 18, 19 ans après, il écrit la première lettre aux Thessaloniciens. Il écrit en grec. Et il écrit un fort bon grec de l'époque, mais il écrit en grec. Bon, c'est un lettré. Voilà. Il écrit en grec. Quand il cite les Écritures, il les cite le plus souvent, pas toujours, dans le texte grec. Mais il connaît aussi les targoums. Il connaît le texte grec, il connaît les traductions en araméen, il connaît probablement l'écriture en hébreu. Il s'appuie surtout sur le texte grec. Les auteurs des évangiles, eux, les évangélistes, Marc, qui écrit probablement à Rome, Matthieu, dont on ne sait pas où il écrit, mais il n'est plus à Jérusalem, il est parti, ils sont partis avec la guerre juive. Luc, qui est peut-être à Antioche, enfin qui n'est plus du tout là, dans le pays palestinien, et Jean, qui est en Asie mineure, ces auteurs écrivent en grec, complètement. Et ils ont, pour écriture juive, et se réfèrent sans arrêt à soit le texte grec de la Septante, sous des formes un peu variées, mais par exemple pour Matthieu, c'est clair. Hein, c'est clair. L'exemple célèbre, hyper célèbre, c'est la traduction d'Isaïe 7,13, « La jeune fille enfantera, la parthénos. » En hébreu, c'est une jeune femme. La Halma de l'hébreu, c'est une jeune femme, c'est la jeune reine qui a d'ailleurs déjà accouché, l'enfant est déjà né. Donc voilà. Donc le texte, l'annonce à Joseph chez Matthieu ne peut pas fonctionner si on s'appuie sur le texte hébreu. Donc il travaille avec le texte grec, ça c'est évident. Il y en a des tas d'exemples comme ça. Donc ils ont pour ancien déjà comme écriture le texte grec de la Septante. Ils connaissent aussi. Ils connaissent aussi des traductions, probablement, qu'ils déjà traduites en grec, en araméen. La Septante, ça a beaucoup bougé. Beaucoup, beaucoup. Pourquoi ça a beaucoup bougé? Parce que, déjà, dans le judaïsme, avant Jésus-Christ, un certain nombre de... Alors qu'on s'était émerveillés au début, c'est formidable, ils ont tous trouvé le même texte, c'est un texte inspiré, c'est le texte envoyé par Dieu. Dans le judaïsme, avant Jésus-Christ, ils se sont vite rendus compte que non, le texte était assez différent. Et même pour la Torah... traduit non pas mot à mot comme pour certains prophètes, mais traduit largement. Largement traduit dans la bonne langue grecque qu'on comprenait. Donc ils se sont rendus compte que non, ce n'était pas le même texte. Et ils ont commencé à réviser, à dire « Oh là là, il faut revoir ce texte ». Et donc il y a eu déjà, avant Jésus-Christ, des entreprises de révision pour dire « Il faut le rapprocher le plus possible du texte hébreu, surtout voilà, sur les... ». On a essayé. Évidemment, après Jésus-Christ, après 70... il y aura aussi des entreprises de révision, mais de toute façon, le judaïsme éliminera ce texte grec. C'est devenu un texte chrétien. D'accord ? Est-ce que là, j'ai éclairci ? Ça va ? Bon, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Ça va ? Est-ce que vous êtes épuisé ? On s'arrête pour déjeuner ou vous voulez qu'on continue ? Attendez, non. Avant d'aller déjeuner, je vous montre quelque chose que vous avez dans votre dossier. Ce n'est pas commode en PowerPoint parce que je ne peux pas mettre tout en deux colonnes. Je vous ai mis en deux colonnes dans votre dossier pour que vous y retrouviez un peu. D'une part, de façon linéaire, je ne pouvais pas faire des cercles, et puis nos Bibles ne sont plus en cercle. Les rouleaux, ça allait bien. Vous pouvez toujours mettre un rouleau central de la Torah, les autres autour, tant que vous voulez. Enfin, je veux dire, tout le monde s'en moque. À partir du moment où on relit le livre, il faut un ordre. Et donc, pour les Juifs, ça va être la Torah, les prophètes et les écrits. Alors, je vous ai mis sur la colonne de gauche l'ordre des Bibles juives en hébreu, qui est aussi l'ordre suivi par la Tob. Ça va ? Pour que vous vous y reconnaissiez, parce que dans les Bibles, on ne se reconnaît pas toujours, d'autant que les ordres ne sont pas toujours les mêmes. Attendez, il faudrait que j'ai cette liste sous les yeux. Ça me faciliterait les choses, je ne sais pas où aller. Bon, peu importe. Alors, vous voyez qu'il y a dans cet ordre, vous avez donc... la Torah, les prophètes, avec les prophètes premiers, Josué juge, 1 de Samuel, 1 de Roi, les prophètes seconds, les grands prophètes et les 12 petits. Amos est parti des petits. Et puis vous continuez. Enfin les écrits, psaumes, Job, les proverbes, les 5 rouleaux, Daniel, Esdras, Néhémie, les chroniques. C'est fini, ça s'arrête là. Ça va ? Dans la Tob, mais pas dans la Bible hébraïque, là, je quitte la Bible hébraïque, je reste dans la Tob, qui a cet ordre-là. On a ajouté ensuite ce qu'on appelle les deutérocanoniques, qui sont des livres juifs, que le judaïsme n'a pas inclus dans son canon. Ça va ? Ça ne veut pas dire qu'il les condamne nécessairement, hein ? Pas dit du tout. On lit Tobit dans le judaïsme. On lit Judith, la grande héroïne juive. On lit Esther. Mais ils ne sont pas dans le canon et on les a essentiellement conservés en grec. Comme ils étaient en grec, les chrétiens les ont ajoutés à la Septante. Enfin, ils les ont gardés avec eux comme faisant partie du canon des Écritures. Ça marche ? Donc, dans la Tob, on les a mis dans un deuxième sac après la Bible juive. Cette partie-là est grecque. Et puis, dans la Tob 2010, vous passez à droite, on a ajouté, je vous le disais tout à l'heure, les 6 livres trito-canoniques, qui sont des livres aussi en grec, lus par les orthodoxes. Est-ce que ça, c'est à peu près clair ? Donc, c'est le schéma de la Tob. La Bible hébraïque, la loi, Torah, les prophètes, les écrits. On affirme le canon juif. Un paquet de livres juifs traduits en grec, qui sont en grec. Pas toujours traduits, des fois directement écrits en grec. Qui font partie de la Septante et que les chrétiens ont adopté, ça marche. Et un dernier paquet de livres juifs écrits en grec qui font partie de la Septante, mais que seuls les orthodoxes avaient jusqu'ici gardé. Est-ce que ça, c'est clair ? Ouais ? À peu près ou non ? Si vous êtes perdu, vous me dites. Vous nagez. C'est pour vous dire l'ordre de la Tob. Bon, vous regarderez. Je vais quand même faire l'autre côté. C'est un peu compliqué, mais ça vous permet quand même de vous retrouver dans vos Bibles. Si vous ouvrez maintenant la Bible de Jérusalem, ou si vous lisez le latin, la Vulgate en latin, ou si vous êtes plutôt porté vers le monde protestant, la Bible, la nouvelle Bible de Second, vous avez une Bible qui suit l'ordre de quoi ? De la Septante. Ça marche ? C'est-à-dire là, c'est vraiment l'ordre de la Bible grecque, même si les textes sont traduits de l'hébreu, ce qui est un peu... Donc on a d'abord le Pentateuque, on a ensuite les livres appelés historiques, dans lesquels sont inclus un certain nombre de livres prophétiques de l'hébreu. On a ensuite les livres appelés poétiques, les écrits, psaumes, proverbes, Job, etc. Et on a enfin les livres prophétiques dans un ordre ou dans un autre. Parfois, ça se termine par Malachie, pas toujours. Ça marche ? Ça, c'est l'ordre, on va dire, l'ordre chrétien, celui de la Bible de Jérusalem, mais aussi des Bibles protestantes. Si paradoxal que ça puisse paraître. Pour vous dire qu'il y a diversité de Bibles, diversité de façons de travailler, diversité de regards, et que cette diversité n'a pas à être réduite. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'a pas un livre tombé du ciel. C'est quand même la différence avec le Coran. On n'a pas un livre tombé du ciel, immobile et figé, puis toujours. On a un livre qui s'est construit dans l'histoire. On s'est séparé du judaïsme, on a récupéré les écrits en grec du judaïsme, avec même ceux qui n'ont pas dans leur canon. On a ajouté, ensuite il faut ajouter évidemment le Nouveau Testament, hein, le nouveau pour le côté chrétien. On a ajouté des choses, les ordres des livres sont différents, et le texte lui-même. Alors, le texte hébreu, il est fixé, et même sa vocalisation, comment vous devez le lire, est fixé par les masorètes. On le fait éclater autrement. Mais le texte grec de la Septante, l'Ancien Testament des chrétiens, le texte grec du Nouveau Testament n'a jamais été fixé par aucun magistère. Jamais personne n'a dit qu'il fallait lire comme ça et pas comme ça. Il y a des variantes énormes. Il y a des morceaux de texte qui sont absents. Vous avez des grands manuscrits dont le récit de la femme adultère est absent. Ça n'a pas plu à ces messieurs, probablement. Et jamais le magistère catholique chrétien, d'abord, catholique ensuite, n'a dit « il faut lire ceci et pas cela ». Jamais. Ce sont les savants qui ont essayé d'unifier à toutes les époques, Origène au IIIe siècle, les savants allemands et maintenant américains au XIXe et XXe siècle, ce sont les savants qui ont choisi un texte pour l'imprimer. Parce que quand on imprime, ça ne bouge plus. Hein. Or, les savants eux-mêmes respectent la diversité. Nous nous référons à un texte grec qui est partout vendu en Occident et qui s'appelle le GNT, le Greek New Testament, pour le Nouveau Testament, ou le Nestlé Aland, c'est des savants allemands. Et le monde oriental, orthodoxe et catholique d'Orient se réfère à un texte grec assez un peu différent qui est édité par leurs savants à eux. Et voilà. Nous ne sommes pas des gens de la lettre. Nous lisons, dit Paul, selon l'esprit et pas selon la lettre. Donc la lettre, ben, de toute façon, les textes chrétiens sont des textes faits pour être traduits. Je vous renvoie au récit de Pentecôte. Chacun doit les entendre dans sa langue. Actuellement, l'Alliance biblique française a traduit, je crois, en plus de presque 1000 langues l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et en 300 ou 400 langues la Bible complète. On traduit encore hein, dans des langues africaines, dans des langues asiatiques, dans des langues locales. Actuellement, il y a des gens qui travaillent pour traduire la Bible. Avec toutes les difficultés de la traduction, vous savez qu'on dit traducteur et traditeur, et le traducteur est un traître. Ah oui, c'est un traître. N'empêche que c'est bien la parole de Dieu qui fait résonner à travers ça les traductions que les gens lisent. Ça va ? Voilà, question et puis on s'arrête. Non. C'est pas une facilité de langage, ça vient de l'islam, hein, les gens du livre. Am al-Kitav, c'est la façon dont les chefs musulmans désireux de bien traiter, en tout cas de ne pas trop maltraiter leurs sujets juifs ou chrétiens, à des époques données, ils ont été toujours considérés comme des sujets de seconde zone, mais bien traités, c'est la façon dont ils justifiaient le fait que ces gens-là avaient droit à un traitement particulier, puisque c'est des gens du livre comme nous, comme eux. En fait, non, les chrétiens ne sont pas des gens du livre. Ils se réfèrent au livre, mais c'est des gens de la rencontre avec une personne vivante et le livre, il doit être traduit, interprété pour aujourd'hui par chacun. Ça marche ? Alors, si vous êtes mort, je vous conseille... Il y a encore une question ?
Merci. Dans la première partie, vous n'avez pas parlé des analyses psychanalytiques de la Bible ?
Non, je n'ai pas parlé de l'approche psychanalytique, je n'ai pas parlé de l'approche féministe qui dit Dieu, il, elle, ou Dieu, elle. Il y a des tas de possibilités. Voilà. Ça fait partie de lectures possibles, tout à fait acceptables. C'est la façon dont on peut, à une époque donnée, faire résonner la Bible. La seule chose, c'est que ça ne dit pas le tout. Le problème, c'est quand on s'empare d'une interprétation et qu'on a la vérité. Là, on est perdu. Donc, vous pouvez proposer, avec les avancées de la psychanalyse sur la psyché humaine, des lectures psychanalytiques extrêmement intéressantes, extrêmement inspirantes de la Bible. Vous pouvez proposer des lectures féminines. Alors, il y a toujours une limite. Il y a un moment où on ne lit plus la Bible, on lit sa propre... Voilà, c'est toujours le problème. Mais les approches diverses, pour peu qu'elles soient fondées sur une méthode qui se défend, qui se justifie, et qu'elles acceptent de n'être que limitées, que d'être un éclairage au milieu d'autres, sont absolument acceptables. Et vous n'avez jamais entendu en chair condamner une lecture psychanalytique de la Bible. D'ailleurs, on est tous un peu influencés par ces lectures. On les intègre un petit peu. Oui ?
La traduction de Chouraki, c'était une
traduction... La traduction de Chouraki est un effort remarquable pour rendre au lecteur français l'aspect à la fois poétique et dépaysant de la Bible hébraïque. Et en ce sens, elle est très intéressante. Alors, pas seulement parce qu'elle traduit, elle écrit Yaakov et puis Israël, etc. Hein, mais parce qu'elle cherche à déplacer, dépayser le lecteur contemporain qui s'assimile trop vite sa Bible. La Bible est aussi un texte très lointain et du passé. Il ne faut jamais gommer cette distance. Voilà, ancré dans des civilisations, des milieux. C'est une autre façon de dire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ancré dans un milieu, dans une civilisation. Donc, voilà. Donc, en ce sens, elle est très intéressante. Sa traduction du Nouveau Testament à partir d'un araméen ou d'un hébreu qui reconstruit me laisse perplexe. Parce qu'à ce moment-là, il ne traduit plus le Nouveau Testament. Il traduit le texte en hébreu ou en araméen de M. Chouraki. Ça m'embête un peu. Et là, je ne suis plus d'accord. Même si c'est toujours intéressant. Oui ?
Merci. À propos de la traduction de la Septante,
oui.
Le mot Septante, est-ce que j'ai bien compris ça, étymologiquement, ça concerne le chiffre 7 ?
Ça,
est-ce que ça concerne le chiffre 7, numéro 7 ?
Oui, excusez-moi.
C'est 7 de quoi ?
Alors oui, excusez-moi, je ne l'ai pas expliqué suffisamment. Septante, dans certaines parties francophones, dans certains lieux francophones, en Suisse par exemple, je ne sais pas au Canada, mais en Suisse, si vous dites 70, on vous regarde comme des étrangers. Ils disent 70. Donc 70, c'est comme 50, 60, 70 ou 70, on dit 80 pour 80, 90. Alors, le nom vient de la légende des 70, parfois 72, sages qui ont traduit dans la légende magnifique qu'on trouve chez Philon d'Alexandrie, le texte tout seul dans leur petite maison et qui ont effectivement sorti le texte de la même, le même texte pour tout le monde. Ça repose sur cette légende d'une traduction par 70 sages, savants qui ont traduit ce texte. Voilà. Oui, excusez-moi. Comment ? À l'origine, le mot septante recouvre la Torah. Par extension, et un peu improprement, on parle maintenant de la ou même des septantes à propos de l'ensemble de la traduction grecque de la Bible. Là, il y a une ambiguïté. C'est d'abord la Torah, mais maintenant la septante ou les septantes, parce que justement, pendant un moment, on a dit, mais non, alors ce n'est pas la septante, c'est que la Torah. Actuellement, la septante, c'est l'ensemble de la traduction en grec de la Bible. Ça va ? Voilà. Je pense que vous pouvez prendre le temps de déjeuner tranquillement. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on redémarre à 1h30 et qu'on finisse vraiment à 4h-5 ? Voilà. Alors, attendez. En partant, d'abord, vous avez pour le déjeuner deux choses. Vous avez un numéro de la Croix que vous pouvez prendre pour lire ce soir le journal. Et vous avez surtout notre libraire qui vous a apporté toutes les Bibles possibles et imaginables qui sont là. Sous toutes les formes, vous avez une petite liste dans votre dossier qui vous permet de vous y reconnaître. Vous avez la TOB, en gros, en intégrale. Laquelle c'est là-bas. La TOB intégrale, avec toutes les notes. C'est l'édition 2010. Et en notes essentielles. Voilà. Après, vous avez la Bible de Jérusalem, en notes intégrales. En plus petit, note essentielle. Et enfin, en papier Bible. Et alors, effectivement, pour travailler chez vous, c'est bon d'avoir une grosse Bible. Pour venir au CIF, parce qu'il faut toujours venir avec votre Bible, c'est quand même mieux dans son sac d'avoir ça. Ça pèse moins lourd. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a porté ? La Bible d'Ostie.
La Bible d'Ostie, parce que je l'aime bien.
Parce que voilà. Et c'est une belle traduction ancienne de Père Ostie pour l'Ancien Testament et Trinquet, Monsieur Trinquet, pour le Nouveau Testament. Après, vous avez dans votre bibliographie une série de livres que je vous recommande. J'ai parlé tout à l'heure de Thomas Romer, La Bible, quelles histoires, sous forme de dialogue. Alors, l'Ancien Testament expliqué à ceux qui n'y comprennent rien ou presque. Jean-Louis Ska, qui est professeur, qui a été, qui est à la retraite, professeur à Rome pendant longtemps, qui est limpide. Voilà, qui est limpide. Romère, il y a, c'est plus dense, c'est plus drôle, mais c'est plus dense. Ce cas, c'est lumineux. Ça, c'est quoi ? Ben voilà, Thomas Romère, il a fait un petit Ancien Testament. Bon, il a fait aussi un petit Ancien Testament. Je ne savais pas. Gérard Billon, qui est actuellement président de l'Alliance biblique et curé à Noirmoutier, après avoir longtemps enseigné à l'Institut catholique de Paris, a écrit une introduction à l'Ancien Testament qui est intéressante, c'est essentiellement thématique. Donc c'est intéressant, ce n'est pas un gros livre. Et puis, si vous voulez travailler les textes, par le même Gérard Billon, avec Philippe Brezon, vous avez cette édition de « Pour lire l'Ancien Testament ». Là, vous avez présentation d'ensemble. Vous allez retrouver des tableaux que j'ai tirés de ce livre. Et surtout, vous avez pour les principaux textes un guide de lecture. Là, c'est vraiment pour travailler en groupe biblique sur les textes. Enfin, pour les gens qui sont à la fois archéologues et historiens, qui ont vraiment la bosse de ce côté-là, vous avez, il est passionnant, mais il n'est pas facile, le livre de Mario Liverani, La Bible et l'invention de l'histoire, qui est en deux parties. La première partie, c'est archéologie et histoire ancienne, c'est-à-dire les potes de l'historien, et il vous raconte l'histoire du pays, pas du peuple, et de ce qu'on sait du peuple, des peuples de ce pays, du XXe siècle au Ier siècle. Et dans une deuxième partie, il vous explique comment, sous différentes formes, la loi, le temple, etc., les auteurs de la Bible ont relu ça. C'est assez passionnant, c'est un peu costaud. Voilà. Il veut parler.
Merci Roselyne. Je suis là donc pendant votre pause déjeuner. Ça, par exemple, c'est une Bible d'occasion, puisque notre librairie est à la fois une librairie de livres neufs et une librairie de livres d'occasion. Donc il y a des choses présentes ici, mais évidemment pas tout. Donc soit on prend commande aujourd'hui, soit vous venez chercher après à la librairie, soit je redépose ici au CIF. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir pendant la pause. Elle est 20 rue des Carmes au métro Maubert Mutualité, c'est-à-dire d'ici à un quart d'heure à pied.
Vous avez l'adresse dans votre, en bas de votre bibliographie. Vous avez le mail et l'adresse de la librairie.